Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin, nous allons parler cinéma. On va se faire un petit peu d'autopromo pour une émission de Radio Graphite. C'est l'émission Culture Prohibée. On revient juste après le générique. Ce matin dans la matinale, mes invités, l'équipe historique de Culture Prohibée, ils reviennent pour une émission spéciale pour les 10 ans. Bonjour Jérôme.
Salut Brian, salut à toutes les auditrices et tous les auditeurs.
On va revenir assez rapidement ce matin sur cette émission, émission qui a commencé il y a une dizaine d'années. Tu nous présentes l'équipe qui est autour de la table ?
Alors, autour de la table, on va commencer par les absents parce qu'ils ont toujours tort. On attend Pierrick Guenet qui doit arriver, on attend qu'il se réveille, voilà. Qui est l'un des premiers à avoir animé Culture Prohibée avec moi, voilà. Et puis dans les premiers, il y avait le jeune homme qui est assis juste à côté de moi, et jeune comme moi, c'est-à-dire qu'il a un peu perdu des cheveux et puis ils ont changé de couleur, mais voilà, il est toujours là, Christophe Cozins, qui depuis maintenant 10 ans a un peu quitté l'émission, mais pour la bonne cause, puisqu'il est devenu patron de The Ecstasy of Film, une boîte d'édition Blu-ray DVD... et bientôt éditrice de bouquins sur le cinéma.
Voilà. On pourra en parler au cours de l'émission. Bonjour Coco, bienvenue.
Bonjour Brian, bonjour Jérôme, bonjour à tous.
C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, tu as totalement changé.
Je te remercie, je sais, j'ai encore plus de cheveux qu'avant.
On pourra après parler un petit peu de ta boîte, justement, entre ces 10 ans, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, nous parler de cette expérience, comment tu as pu lancer cette boîte d'édition de DVD, si ça marche, enfin de DVD et de Blu-ray, si ça marche bien, si c'est compliqué au quotidien, un petit peu comment ça fonctionne. Jérôme, tu continues le tour de table ?
Alors, on continue le tour de table. Alors, il y a aussi deux chroniqueurs à cette table qui sont des... Alors, il y a d'abord, je vais commencer par le plus bel organe de cette émission. Je parle d'organe vocal, bien sûr. C'est John Ferré, alias l'homme mystère, libraire fou de son état. Voilà. Salut John. Hi John, comme on dit dans l'émission.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, comme la formule veut bien le consacrer.
Pareil, un invité qui est là à géométrie variable un petit peu ou à chaque émission ?
Il vient quand il peut, parce qu'il va répondre à ma place, parce que c'est vrai qu'on a tous des obligations professionnelles et tout, c'est pas simple.
Et oui, on ne vit pas que de l'émission malheureusement, donc selon les impératifs professionnels, on essaye de s'entendre. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on peut, c'est toujours une joie de faire découvrir et somme toute de faire partager cette passion qui nous anime.
Surtout qu'en 10 ans, changement de boulot, un petit peu changement de vie. Avant, quand tu avais commencé, tu bossais au cinéma MK2 à Paris ?
Ah, moi je m'occupais de la boutique MK2, MK2 Bibliothèque au début avec l'incroyable Bruno. Et après, je dirigeais la boutique MK DVD Loire, où on avait la joie de retrouver énormément de clients sur différents produits, tels que les DVD, les livres. Enfin bref, ça a été 6 ans de ma vie merveilleuse.
Dernier animateur de cette émission, qui lui est quotidiennement, régulièrement dans l'émission. Je pense qu'à chaque émission, il est là.
Ah oui, quasiment. Alors c'est un peu mon alter ego que j'ai trouvé. Il n'était pas là au début de l'émission, mais c'est un bosseur. Donc, quand j'ai un bosseur sous la main, je le fais bosser. Voilà. Thomas Roland, alias Le Garou Picard, qui aujourd'hui a écrit dans plein de magazines, dans plein de revues, qui va bientôt écrire dans une nouvelle revue. D'ailleurs, il va vous la présenter. Et puis, qui également écrit sur le site Culture au Point. Salut Thomas.
Salut GG, salut Coco, salut John, salut Brian et bien évidemment, bonjour à toutes.
Donc là, c'est quoi le programme pour toi actuellement ? Alors tu travailles également, tu fais de la com sur des films qui viennent d'Afrique, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
Je suis effectivement l'attaché de presse de Jambars Mben Lansoumi, de Eric Bodoulé-Sosso, qui est un réalisateur franco-camerounais qui vit à Amiens, qui est un film qu'il a réalisé entre Amiens, Ouagadougou et Dakar au Sénégal. Un film qui parle de l'écrivain et réalisateur sénégalais Sembène Ousmane, qui fut l'un des pionniers, si ce n'est le pionnier du cinéma noir africain, donc au Sénégal.
L'émission Culture Prohibée a commencé comment, Jérôme, tu te souviens ? Alors l'émission, du coup, c'est porté par l'association Les Films de la Gorgone. Déjà, qu'est-ce que c'est Les Films de la Gorgone ?
Alors, les films de la Gorgone, je vais un peu revenir sur mon actualité aussi, parce que j'ai un livre en librairie quand même. Le cinéma français, c'est de la merde, volume 3, voilà, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre, que j'ai coécrit. Et puis, je travaille sur un autre livre, mais on va en parler après avec Christophe, un gros livre de cinéma, voilà. L'émission, elle est née comment ? Ben, elle est née de l'acolyte qui n'est pas réveillé, là, de Pierrick Guénec, hein, qui animait à l'époque une émission qui s'appelait La banane dans l'oreille. Et il était venu nous faire un petit reportage, parce qu'il est reporter comme Tintin l'Intrépide, il est journaliste, non mais j'aime bien dire reporter, ça me fait rire. Il était venu faire un reportage sur un documentaire qu'on était en train de tourner avec Christophe, à l'époque, on faisait un petit documentaire, puis comme il ne se passe pas souvent des trucs dans l'Oise, il était venu, puis on avait discuté cinéma, et il s'était aperçu qu'on adorait John Carpenter comme lui. Et donc il nous avait invités dans son émission La banane dans l'oreille à faire une spéciale John Carpenter. Et puis il nous a dit, bon bah les gars, écoutez, ça s'est bien passé, vous devriez faire de la radio. Et franchement, on n'avait pas... Perso, on n'avait pas spécialement prévu de faire de la radio. L'association Les Films de la Gorgone, on venait de la monter parce qu'on avait un producteur qui nous avait lâché pour le documentaire qu'on était en train de tourner. Donc on avait monté une structure associative pour pouvoir produire le documentaire. Et puis, en fin de compte, l'idée a cheminé. Et puis pour l'année suivante, eh bien je me suis décidé, je me suis dit, tiens, si je crée une émission qui s'appelle Culture Prohibée, on ne va pas se mentir, hein, je suis très fan de Mauvais Genre de François Angelier sur France Culture, qui serait une sorte de déclinaison un peu de Mauvais Genre. Bon, ils avaient déjà le meilleur titre, donc on a essayé de trouver un titre pas trop mauvais. Et puis, à l'époque, c'était vraiment à la One Again, hein, c'était du Do It Yourself. Brian, tu étais parfois dans l'émission, d'ailleurs.
Ah bon, je ne sais même pas.
Oui, on avait fait une double émission sur l'histoire du rock alternatif français.
Ah, exact.
On avait interviewé Ty Luc de la Souris Déglinguée, voilà. Et on avait fait ça ensemble. Et l'émission, elle durait une heure et demie, une fois par mois. Et puis est arrivé Léo Magnin, qui n'est pas là, mais qui est aux manettes de l'émission. D'ailleurs, c'est le technicien et que les auditeurs ont... On a pu entendre, écouter lors des quotidiennes qu'on a animées en direct de Gérard May, on l'a fait durant quelques saisons, qui a fait franchir un nouveau cap à l'émission, qui nous a fait prendre conscience que ce serait mieux si on était hebdo, plutôt qu'une émission mensuelle. Donc on est devenu hebdomadaire, on s'est professionnalisé entre guillemets, on a commencé à être accrédité dans les festivals, à faire plein d'interviews, à rencontrer des réalisateurs qu'on n'aurait même pas imaginé rencontrer un jour, de type Joe Dante, Dario Argento, voilà, George Romero, tout ça, enfin bon, toutes nos idoles. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça, et puis l'émission, elle est toujours là, 10 ans après, avec plus de 700 000 personnes qui nous suivent sur le blog, et puis plus d'un millier de téléchargements par mois. Donc on est super contents, évidemment.
Multidiffusé sur d'autres radios, pas seulement sur Graphite, en plus.
Ouais, en France et en Belgique.
C'est quoi la contre-culture en France ? Est-ce que c'est une sous-culture ? Est-ce que c'est une culture alternative ? C'est quoi exactement ? Comment vous définirez un petit peu le style
S'il y a quelqu'un qui veut y aller. Parce que c'est compliqué, en fait, la contre-culture. Au départ, la contre-culture, c'est vraiment le produit des années 60, c'est l'arrivée des fanzines, de tout ce qui est underground, les musiques underground, la presse underground, tout ça. Puis petit à petit, la BD underground, les comics underground, Robert Crumb par exemple, avec Fritz the Cat, et puis une certaine forme de cinéma, hein, avec Kenneth Anger, tout ça, enfin bon, des mecs un peu barrés. Et puis en fait, le cinéma fantastique d'horreur, puisqu'à l'époque c'était transgressif, c'était interdit, il y avait les vidéos nasties après, dans les années 70-80, pardon, en Angleterre. Et aujourd'hui, c'est difficile de parler de contre-culture puisque tout est récupéré constamment. Il existe de moins en moins de choses à la marge, mais on essaye toujours dans l'émission de trouver des choses qui sont, je ne sais pas si elles sont contre-culturelles, mais en tout cas, elles sont autres où il y a peu de monde qui en parle. Par exemple, mon ami Thomas, qui est à côté, lui, il essaye toujours de défendre le cinéma de genre africain autant que l'on peut, d'aller chercher des auteurs de BD, de la BD africaine, voilà, qu'on invite dans l'émission. Donc on essaye toujours, mais ce n'est pas évident de définir la contre-culture, si ce n'est que ça a été un mouvement qui a produit des artistes, tout ça, mais qui était très hétérogène, donc il est difficile à expliquer, à définir.
C'est compliqué de faire venir la culture africaine, notamment la contre-culture africaine, en Europe. C'est facile, on trouve où les infos ? On trouve très facilement des blogs, des sites, des pages Facebook ?
Non.
Non. Il faut aller sur place.
Non, parce que, enfin, je ne sais pas s'il existe vraiment une contre-culture africaine. Effectivement, ce qui se fait en cinéma, je ne sais pas si on peut parler de cinéma de genre, il y a... un petit peu de cinéma de genre qui commence à émerger. Mais effectivement, ce qui se fait en cinéma, ce n'est pas du cinéma institutionnalisé. Ce sont des gens qui font du cinéma avec leur propre argent. Ils mettent leur denier personnel sur la table, ils font du cinéma. Ensuite, en bande dessinée, il y a aussi beaucoup d'auteurs, notamment en RD Congo. Il y a beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui font ça un peu... avec les moyens du bord, qui éditent eux-mêmes leur petit fanzine ou alors une BD sous la forme d'un fanzine, un format souple, qui font les choses eux-mêmes. Alors là, ça pourrait rentrer dans le cadre de la définition de la contre-culture. Après, est-ce que c'est difficile de faire rentrer, effectivement, intéresser les gens à ça, aux productions qui se font en Afrique, en dehors de la musique? La musique, ça fonctionne bien, hein, fait la Kuti, tout ça, encore, ça, tout ça, c'est très connu, ça fonctionne auprès d'un large public. Mais tout ce qui est bande dessinée, peut-être un peu moins, et surtout le cinéma, dire aux gens que le cinéma africain existe et qu'il n'est pas misérabiliste, c'est compliqué.
C'est quoi? C'est un problème de référent culturel? C'est un peu comme avec le cinéma japonais, on a du mal à s'identifier au personnage en tant qu'Européen ou pas?
Je pense que les gens pensent que c'est difficile de s'identifier aussi à un personnage d'une couleur de peau différente. Mais je pense aussi qu'il y a des clichés comme quoi c'est pas du vrai cinéma dans le sens où ils pensent que c'est un cinéma fait avec les moyens du bord, ce qui est parfois vrai. Qui est fait avec les moyens du bord, que c'est misérabiliste, que ça parle peut-être de choses qui leur sont étrangères, alors que non, quand je vais à la Nollywood Week, le festival du cinéma nigérian à Paris, je vois des films policiers, des comédies sentimentales, des drames qui peuvent être accessibles à tout le monde. Je veux dire, y a bien le cinéma de Blaxploitation qui a parlé à un large public dans les années 70. Ouais. Pourquoi les cinémas africains ne parleraient pas à un large public aujourd'hui? C'est-à-dire, moi, je pense que tous les films peuvent intéresser tous les publics. Tous les publics peuvent être touchés par n'importe quel film. Le tout, c'est de lui donner envie d'aller le voir, qu'il soit au courant que ce film existe.
Culture privée, c'est quoi à l'international? Est-ce qu'il y a eu des interviews à l'international, des gens, je ne sais pas, est-ce que vous avez des connexions avec les États-Unis, le Canada ou d'autres pays? Peut-être des pays d'Europe de l'Est?
Écoute, j'ai vu qu'on était pas mal téléchargés au Canada, tout ça, dans les pays francophones. Voilà, dans les pays d'Afrique un petit peu aussi, bien que c'est plus dur, hein. L'accessibilité au réseau Internet et tout partout n'est pas forcément facile. Et on a un peu téléchargé un peu partout là où il y a des francophones. Après, des connexions, Thomas avait construit des connexions, hein, quand il était parti avec une radio qui s'appelait Radio Okapi. Enfin, il y avait eu des choses de fait. Hein, après, c'est toujours des choses qui ne se font pas sur la longueur. Quoi, voilà. Après, à l'international, bon, c'est pas très loin, mais avec Radio Panique à Bruxelles, on travaille bien maintenant depuis plusieurs années. Voilà.
Là, pour les 10 ans, qu'est-ce qui est prévu à l'antenne et qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que vous allez faire des événements en dehors de l'antenne? Est-ce qu'il y aura des projections ou des rencontres avec les membres de Culture Privée?
Alors, je t'avouerais qu'on n'a pas vu aussi grand. C'est vrai qu'on est, on reste modeste quand même. Hein, mais
un barbecue peut-être.
Mais alors, un barbecue, ça peut se faire. Hein, voilà. Mais il y aura une ou deux émissions où on va retrouver tous les chroniqueurs un peu entre guillemets mythiques, parce que j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas tous les chroniqueurs qui ont fait l'histoire de l'émission. Et puis durant cette 10e saison, on repasse aussi des extraits d'entretiens, nos meilleurs entretiens avec des cinéastes. Il y aura des romanciers aussi, tout ça, parce qu'on aime aussi beaucoup la littérature, le roman noir en particulier. On a interviewé beaucoup d'auteurs de romans noirs. Il y aura, par exemple, il y a eu des rediffusions déjà de Bertrand Tavernier, le grand entretien qu'on avait eu avec Bertrand Tavernier. Il y en aura d'autres, hein. Il va y avoir Catriona
McCall.
C'est
un best-of, quoi.
Voilà. Il y aura des petits best-of, mais ce ne sera pas du best-of. On ne va pas reclaquer la même émission. C'est-à-dire qu'on retravaille un peu tout ça, on remet en perspective avec ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, quand il y a un peu de best-of, il y a à côté quand même une interview inédite. Enfin, on essaye de faire les choses un peu plus intelligemment. Voilà, sauf le Tavernier, bien sûr, parce que l'interview dure une heure, donc on a remis toute l'émission en interview, parce que quand Bertrand Tavernier parle, bon, il ne faut pas en perdre une miette.
Je vous propose qu'on fasse une courte pause musicale et on se retrouve juste après ce titre. C'est La Matinale et on est ensemble pendant une heure. De retour avec l'équipe de Culture Prohibée pour cette matinale spéciale Culture Prohibée pour les 10 ans. On va revenir à toi, Coco. Tu vas nous parler un petit peu du coup de ta boîte que tu as pu monter entre ces 10 ans. Elle a combien de temps, à quel âge, du coup, cette boîte?
Là, on fête les 7 ans cette année. Donc, elle a été créée en août 2012. C'est vrai que ça a été un petit peu du côté le parallèle et presque là avec Culture Prohibée, parce que ça a été aussi du do it yourself un petit peu, puisque j'ai découvert aussi il y avait des bases de par mon cursus et de par l'expérience. Mais voilà, quoi, j'ai pas un bagage qui était celui d'éditeur vidéo. Donc on apprend tout de suite directement à chercher des catalogues de films, à négocier les droits, à faire des contrats, à faire une conception d'autoring, à faire la distribution, relations presse, s'occuper de la la page Facebook, voilà quoi, etc. Assez souvent, je dis, je suis un petit peu le couteau suisse. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je rajoute un petit truc et ça me fait souvent penser, quoi. Je dis pas, c'est vraiment les méthodes. Au début, c'était les méthodes un peu à la Roger Corman, hein, voilà, quoi. Très peu de moyens, donc du coup, faut avoir des idées. Par exemple, sur le premier titre que j'ai voulu sortir, La Lame Infernale, la Fnac m'a refusé si je passais pas par un distributeur, voilà, un gros distributeur. Donc du coup, faut trouver un autre moyen. Donc moi, j'ai trouvé le moyen d'ordonner une place en fait à l'objet qui est le DVD en travaillant vraiment sur des objets de collection, souvent limités à 1000 exemplaires, avec un contenu qui parle vraiment aux collectionneurs, aux fans de cinéma. J'allais dire aux fans de cinéma bis, justement, c'est là où on revient un petit peu à ce que disait Jérôme ou Thomas. C'est-à-dire que là, j'ai pu faire un colloque, c'est pareil, l'année dernière à Sorbonne, sur qu'est-ce que le cinéma bis. Cinéma bis, par exemple, c'est les gros films italiens qui copiaient en fait sur le cinéma américain. Et maintenant, ce qui est bis, on le retrouve un petit peu dans des réalisateurs comme Tarantino, parfois dans des Pulp Fiction, dans tout ça. On parlait de la Blaxploitation, lui a refait Jackie Brown, des choses comme ça. Donc moi, mon but est un petit peu comme l'équipe, qu'on a commencé de Culture Prohibée. J'avais déjà ça en tête depuis un petit moment, c'est d'être un peu passeur de mémoire, d'exhumer les films, de pouvoir les retrouver dans les meilleures copies possibles, de pouvoir en parler, de penser au packaging comme un objet qu'on ne jetterait pas comme, je dirais, un
objet de consommation.
Voilà, un objet de consommation. Donc, les premiers, à ma deuxième édition, j'avais un mec qui faisait le tour des États-Unis, qui avait pris en fait l'édition de La Guerre des Gangs, et il les prenait en photo à chaque fois au gros, un peu partout, quoi, au niveau des États-Unis, dans les grands trucs des États-Unis. Et là, je me suis dit, mais ouais, le mec, il a autre chose à faire que de prendre mon édition. C'est là où je me suis rendu compte que, quelque part, je donnais quand même un plaisir quand même aux gens, parce qu'on ne se rend pas compte au début quand on commence comme ça. Et là, quand on dit, on commence à se prendre en photo avec l'édition, ou on commence à en parler comme un objet un petit peu autre. Et je trouve que ça rejoint totalement ce qu'est Culture Prohibée, c'est de parler de ce que les magazines ne parleraient pas habituellement, et de pouvoir faire un contenu aussi, d'amener aussi dans l'édition le fanzine comme j'ai pu amener. Et d'avoir un film toujours qu'on puisse parler, je pensais, ça doit être au dossier de l'écran de l'époque, dans les années 80, que ça soit des films toujours un petit peu actuels. C'est-à-dire que La Lame Infernale, le sous-texte, c'est l'élite corrompue, les mineurs qui sont en pleine prostitution. C'est-à-dire que c'est des films quand même qu'on peut parler encore malheureusement aujourd'hui.
C'est quoi le déclic qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure-là? C'est quoi le moment de folie? Est-ce que tu as fait un benchmarking avant? Est-ce que tu as fait une étude d'impact, un truc pour dire demain je vais... Est-ce que tu as consulté ta femme pour lui dire finalement je t'emmène aussi dans une galère en vendant des DVD?
Ouais, en gros, ça va pas être... y a pas de folie, c'est le chômage. Voilà, le chômage au bout de 2 ans où tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire de tes 10 doigts? Après, tu prends un petit peu ce que tu sais le mieux faire. C'est vrai que finalement, tout ce que... parce que j'ai un parcours assez un peu chaotique et tout.
T'as fait un BEP CAP en quoi? En secrétariat?
En secrétariat compta. Donc, pour arriver à être éditeur DVD. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivé à Fac des Arts d'Amiens au début, que je dessinais des camemberts, en fait, en montrant les pourcentages, le son, l'image et tout. Voilà, on m'a regardé un petit peu, mais le mec, il me parle de camembert, de commerce. T'es dans une fac d'art, on te parle d'Ozu, on te parle de Bresson, on te parle de tout ça, on te parle d'expérimental. Qu'est-ce que tu m'embêtes avec tes gommettes et puis tes camemberts, quoi. Et comme quoi, au final, ton parcours, tu t'en sers quand même. Quoique, de montrer aussi quand même que finalement, là, en gérant l'édition, il faut gérer les relations presse. Je m'occupe de la compta, voilà, et tout. Donc, bah, au final, je gère un petit peu, j'ai tous les statuts dans la société. Donc, c'est plutôt des choses qui m'ont servi. Mais à la base, c'est vrai. Et puis, comme je dis toujours, c'est le départ de... En fait, il y avait une société d'édition vidéo qui s'appelait Neo Publishing, qui a fermé ses portes. Et du coup, j'ai trouvé que ça faisait un vide énorme. Parce que d'autres éditeurs étaient plus sur d'autres... avaient une ligne éditoriale autre que celle-ci. Quartus faisait des choses qui étaient super, super bien, mais plus dans le gothique, dans tout ça. Il n'y avait pas de retour du polar italien, du giallo, voilà, tout ça. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, il faut essayer. Et puis, quand je dis du do-it-yourself à la Roger Corman, c'est que mes tout premiers échanges téléphoniques avec des Anglais, tout ça, ça s'est fait avec en fait Reverso ouvert voilà, je faisais Reverso en même temps que je parlais avec eux parce que bah, je buguais, mon niveau d'anglais était déplorable, il l'est pratiquement toujours, mais je me débrouillais un peu mieux quand même. Et c'est-à-dire que bah, voilà, quoi, il y a des moments où je disais, ouais, pff, ça bug et tout, attendez, ça coupe, je vous entends mal, vous pouvez pas répéter et tout, alors je continuais à taper. Je me rendais compte que Reverso, c'était pas tout à fait ça non plus, hein. On le dit souvent aux lycéens, aux collégiens, faites gaffe à Reverso. Donc du coup, non, bah, c'est des choses comme ça. Après, j'arrivais avec mes éditions dans des gros magazines, on me disait, ouais, bah merci, ouais, t'es le commis et tout. Je fais, non, je suis le commis, je suis le directeur, tu vois, je m'apporte moi-même des cafés, voilà. Donc bah, tout ça, on apprend, et puis ça sert finalement, et puis l'émission Culture Prohibée a servi aussi, puisque... Bah, ce qui a permis, bah, en tout premier, c'est les films de Gorgone. Ouais. Voilà, parce qu'on avait créé déjà, on a co-créé avec Jérôme les films de la Gorgone. Puis ensuite, bah, ça a enchaîné avec Culture Prohibée, on était sur les festivals, tout ça. Et puis on se dit, bah, ouais, finalement, tu sors des films comme ça. Bon, c'est pas si facile que ça, mais voilà, quoi. Le but était d'être un petit peu dans vraiment d'être passeur de mémoire, d'exhumer, de pouvoir les rendre dans la meilleure qualité possible et dans des éditions les mieux, comme mon coup du sac à vomi, ça a fait...
C'est une édition avec un sac à vomi.
Voilà, un sac à vomi d'époque, de la marque du diable. Et ça a marqué encore tout le monde, on m'en a parlé récemment, c'est-à-dire que j'ai retrouvé ça. En fait, le film était sorti en 69 et dans les entrées... de cinéma, ils donnaient des sacs à vomi pour un peu pousser le côté effrayant et tout ça, qu'on va aller voir un truc. Et finalement, bah, le côté contre-culturel, comme on parlait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, bah, quand je fais mes recherches et je me dis je vais faire des facsimilés, bah, je me retrouve avec à côté des Air France, des tout ça, qui font des sacs à vomi, je vais dire, sur Star Wars et tout ça. Et là, on se rend compte bah, que le palier a été franchi quand même, malgré tout. Et pourtant, je pars que du sac à vomi, quoi. C'est vrai que c'est devenu un objet qui est rentré dans les mœurs, qu'on s'en sert maintenant constamment. Mais à l'époque, c'était un objet pour faire peur, vraiment. C'est assez fou, mais vrai.
Là, sur tes prochaines sorties, maintenant, tu vises quoi ? T'as dû te faire les premières sorties, c'est des choses pour te faire un peu plaisir, j'imagine. Et aujourd'hui, c'est quoi ? C'est les choses un peu bankable ? C'est les choses qui sont attendues par la communauté ? C'est quoi ?
Ah oui, c'est vrai qu'avant, j'étais un petit peu foufou, quoi. C'était des films un peu plus, pas mineurs, des films reconnus. Mais c'est vrai que c'était des films de, comme on dit, de niche, sans être péjoratif. Mais voilà, quoi. Avec là, les derniers titres que je peux sortir, comme Reanimator de Stuart Gordon ou Rage de Cronenberg, voilà, je touche pas le même public et j'essaie de... pas de varier les plaisirs, mais de faire un titre un peu plus mineur et faire un plus gros titre. Parce que j'ai remarqué aussi qu'il y avait des titres qui n'avaient pas du tout marché, des documentaires qui n'avaient pas marché non plus. Donc de ce fait-là, je vais essayer de vraiment au minimum bah, risquer l'entreprise de la faire couler, quoi. Donc du coup, je suis obligé un petit peu. Et puis bah, avec la notoriété, c'est qu'au début, je commençais par... j'ai fidélisé et créé quelque chose où j'ai une image de marque sérieuse. C'est ce qui permet des fois de bah, c'est un plus. C'est-à-dire que là, sur Animator, par exemple, sur 1000 exemplaires que je vais sortir, les 1000 exemplaires vont... Le titre n'est pas sorti, mais les 1000 exemplaires sont déjà partis.
Ouais, c'est déjà les préventes qui permettent d'être plus confortable sur les sorties, quoi. Au moins, ça permet d'avoir un peu une vision.
Ouais, voilà, c'est une économie, c'est un fonds de roulement, et ça permet d'éponger au mieux, en fait, vraiment les coûts de production et tout ça. Et ce qui permet de continuer aussi à pouvoir acheter d'autres films et tout. C'est vrai que le CNC,
Le Centre National de Cinéma, ouais.
Ouais, aide énormément à ça. En fait, quand je suis arrivé, le CNC commençait à aider finalement tout doucement le cinéma de genre, ce qui n'avait pas été le cas avant, je crois, à l'époque de Néo. Et du coup, bah, ça a permis, voilà, même là, on vit un nouvel âge d'or, un petit peu un nouvel âge d'or dans l'édition vidéo de, pas de niche, mais des indépendants.
Voilà, c'est vraiment plus de l'objet qu'on collectionne, quoi. C'est vraiment un peu la geek attitude.
Ouais, voilà. Puis là, bah, on est en plein dans un marché de la vidéo qui est en pleine mutation, avec la VOD, avec le streaming, avec Netflix, avec tout ça. Donc, bah, pour les éditeurs, maintenant, il faut trouver un petit peu, des nouvelles choses et créer vraiment un produit où on se dit, bah ouais, je vais pas le revendre sur une brocante ou. Ou voilà quoi, je vais pas le mettre derrière sur le bon coin. C'est-à-dire qu'on va plus, je pense, qu'on va plus vers un marché comme ça. Et puis l'autre chose, c'est que on se rend compte aussi qu'un éditeur comme moi, c'est pour ça que je vais revenir à Jérôme qui va être content. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas rester non plus que dans l'édition vidéo. C'est que du coup, je commencerai à partir de cette année à créer aussi. Une ligne éditoriale aussi dans le bouquin, avec le premier bouquin français sur le giallo que monsieur Jérôme Potier de Culture Prohibée va écrire. Donc voilà quoi, c'est des choses.
On sent les gouttes qui perlent là, les gouttes de transpiration en train de perler.
C'est voilà. Hein. Et en plus, Jérôme, c'est.
Méga pression sur mes épaules.
C'est ce qui est bien, c'est ce que je disais, c'est que Jérôme, je l'ai rencontré autour d'une brocante et je lui ai acheté la revue Mythique. En fait, Midi Minuit, et c'est comme ça qu'on s'est connus, donc ce qui est assez marrant. Puis c'est lui en fait qui a écrit le premier livret pour La Lame Infernale. Donc voilà, je trouve que c'est un juste retour de choses. Et puis, il me paraît pas trop mal qu'il est pas mauvais, jeune.
C'est vrai, comment vous êtes connu? Tu l'as expliqué pour Pierrick, il est venu faire un article sur votre film, et du coup, les autres, ça s'est passé comment cette rencontre?
Alors j'ai déjà dit du bien de Pierrick quand il n'était pas là, mais là il vient d'arriver, donc Pierrick, si tu veux dire bonjour à nos auditrices et auditeurs, n'hésite pas, hein. Voilà, je te laisse la parole.
Je crois que tu te rapproches un petit peu, ouais, c'est pas comme si tu faisais de la radio tous les lundis. Hein.
Je prends un peu l'émission en vol. C'était quoi la question?
Du coup on a expliqué tout à l'heure comment vous êtes rencontrés, toi tu les as rencontrés en faisant un reportage pour Le Coin et Picard quand ils étaient en train de réaliser un film. Et Jérôme, c'est comment le reste de l'équipe, comment vous êtes arrivé? On a compris, c'était
Coco, voilà, du coup, c'est un copain de longue date.
Tu vendais des choses en brocante avec les films de la Gorgone ou pas du tout?
Non, je vendais en tant que collectionneur mes doubles, voilà, en brocante. C'est que les cinéphiles sont fous et fétichistes, donc ouais, j'ai des milliers de choses à la maison, du sol au plafond, au grand désespoir de ma femme. Après, comment on s'est rencontrés? C'est assez simple. Je veux dire, pour ce qui est de John, Brian, c'est toi qui l'as recruté, hein, c'est toi qui me l'as présenté. Voilà.
Ce qui est bien, c'est que je revis des morceaux de ma vie, ce que j'avais totalement oublié.
C'est toi qui as servi d'intermédiaire, si j'ose dire, tu as fait l'agence matrimoniale pour John et moi, hein, voilà. Et puis après, il y a eu aussi des chroniqueurs de passage, hein, qui ne sont pas restés... Des fois, il y a des atomes crochus, des fois, il n'y en a pas. Hein. Thomas, c'est aussi quelqu'un, on se connaissait avant l'émission, en fait. Il avait travaillé avec Christophe et moi sur le même documentaire. D'ailleurs, il avait été, parce que Thomas, il est aussi caméraman, donc il avait été technicien sur un de nos documentaires. Et puis, en fin de compte, il est devenu chroniqueur dans Culture Prohibée, de fil en aiguille, hein, Ça s'est fait comme ça, quoi. Voilà, c'est des rencontres, c'est les hasards de la vie. Puis je tenais à souligner aussi, il n'est pas là parce qu'il est très pris maintenant, parce qu'il travaille beaucoup, il est très, très demandé. C'est William Blanc aussi, qui est historien et qui a sorti un très bon bouquin il n'y a pas longtemps sur les super-héros, paru aux éditions Libertalia, qui s'appelle Super-héros, une histoire politique, qui est vraiment chouette. Et qui est venu en parler dans l'émission d'ailleurs. Et il y a William qui intervient quand même régulièrement dans l'émission. Il peut pas être là aujourd'hui, mais c'est vraiment aussi quelqu'un d'important dans l'histoire de l'émission.
Là aujourd'hui, c'est Culture Prohibée. Vous avez été sur quoi? Alors, je sais que vous allez souvent au Bloody, enfin vous avez été au Bloody Weekend, vous avez été à Gérardmer. C'est quoi c'est où on peut vous retrouver? Où est-ce que vous allez chercher vos interviews et...
Le hasard, alors nos liens avec les attachés de presse aussi quand même, parce qu'au bout de 10 ans, une émission, elle a construit un réseau, hein, évidemment. Voire parfois avec des producteurs de films même, comme on se connaît depuis longtemps. Après, on est invité, voilà, systématiquement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a bah, évidemment les festivals. Alors, tu l'as dit, hein, Bloody Weekend.
Festival d'Amiens aussi.
Festival d'Amiens, le FIFAM, voilà. Le festival de Beauvais qu'on a déjà fait. Gérard May qu'on a fait plusieurs fois, en direct duquel on a animé des quotidiennes. Festival aussi. Thomas, tu as fait un festival en Afrique aussi, je me rappelle. Tu nous avais ramené quelques trucs à la Hollywood Week, évidemment, à Paris, mais tu nous avais ramené des choses aussi. Puis là, tu envisages peut-être d'aller à Ouagadougou, c'est ça, pour un autre festival. Enfin, on voyage, quoi. On voyage.
C'est quoi la plus belle rencontre pour vous c'est, si vous avez un seul nom à donner, chacun votre tour, en termes de rencontre et d'interview ou de...
Un seul nom, c'est dur, parce que... Voilà, il y avait tellement de cinéastes que j'adorais.
Est-ce qu'il y en a un, tu t'es dit quand même, celui-là, ça y est, je lui ai parlé, j'ai pu l'interviewer.
Ouais, il y en a plusieurs, mais disons qu'au niveau des rencontres, je vais en garder une. Si je dois en garder qu'une, je garderai Dominique Manotti, qui est une auteure de polar que j'adore. Et en fait, on est devenus, on s'échange des mails, on a déjà mangé ensemble, on s'est revus plusieurs fois, tout ça, et... Voilà, c'est pas une amitié, mais on se connaît. Voilà, il arrive qu'on se téléphone. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que c'est mon auteur de polar préféré en fait aujourd'hui en France. Donc tu penses bien que quand tu arrives à avoir de temps en temps à pouvoir échanger avec des gens que t'aimes beaucoup et tout, t'aimes beaucoup ce qu'ils font, puis qui humainement se révèlent encore meilleurs que ce que leur bouquin laisse transparaître. Bon, bah voilà, c'est chouette, t'es heureux quoi.
Toi, Thomas, c'est quoi la personne que tu as rencontrée qui t'a le plus bluffé ou tu étais content de l'avoir rencontrée?
J'ai quand même serré la main à William Friedkin, à la Cinémathèque.
Hein. J'étais là, d'ailleurs.
Ouais, GG était là. Et je suis la première personne à qui il a dit de venir lui serrer la main, quand même. C'est flatteur. Après,
c'était dans quel cadre, du coup? C'était une conférence de presse?
C'était une leçon de cinéma. Il faisait une leçon de cinéma. Il arrive sur scène et puis il me pointe du doigt. Il me fait signe de venir lui serrer la main. Alors je me suis levé, je lui ai serré la main, voilà.
Ok.
Il paraît qu'il ne s'est plus jamais lavé la main après.
ça c'est la légende qui dit ça.
Après au niveau par rapport à culture prohibée, il y a cette écrivaine Elsa Marpeau qui est très sympa je trouve et qui l'une des fois où je l'ai interviewée c'était à propos de Black Bloc et ma première question l'avait bien fait marrer. Je sais pas.
La question, c'était une. Hein.
Ouais.
C'était une rencontre. Ah, faut jouer le jeu, Thomas.
Moi, je suis un internet.
Parce que sinon, j'aurais dit ta Tavernier, Argento, tout ça. Mais non, la réponse, c'est une. Donc voilà.
Et pour toi, Coco? Deux micros qui arrivent vers toi.
Du coup, ouais, Jérôme l'a peut-être dévoilé finalement. Et ça m'est pas venu tout de suite. C'est, je pense, peut-être Tavernier. Parce que ouais, c'est vraiment un personnage. Quoi. C'est,
il a bouffé avec lui quand même.
Vous avez mangé avec lui. Hein.
Ouais, voilà. Et puis, c'est surtout qu'il a un côté cinéphile, historien. Et puis, il impose quoi, le bonhomme. Donc. Je pense que Tavernier, j'allais dire Joe Dante, et puis finalement, ouais, Tavernier peut-être, parce que, et puis bah, on avait une grosse pression, pour tout dire, au niveau de l'histoire, c'est-à-dire qu'on est, on passait en second, il y avait la radio du festival qui passait avant nous, la télé du festival, et en fait, le truc, c'est que la télé se plante en fait sur leurs deux premières questions en fait et là Tavernier pas du tout content commence à dire bon ça passe une fois là la seconde en gros bon il l'a dit autrement mais et à la seconde là gros crash en fait
en gros arrêtez ces questions à la con quoi.
Gros crash au niveau de l'interview en fait la personne pose une question qui est pas du tout bonne. Et là, lui, carrément, arrête l'interview, enlève son micro, en fait. Il repose, il dit « Allez, au suivant, quoi. »
Ouais, ça met la
pression. Vous rangez tout. Et là, on se retrouve devant quelqu'un qui... on se dit « Ouais, alors là, tu te foires. » Je peux dire « Je regardais un petit peu Jérôme, je regardais un peu mes chaussettes. » Je le regardais, je me suis dit « Bon, allez, c'est parti, quoi. » Et finalement, voilà, au bout des deux, trois premières questions, quoi, il a vu que... et puis au fil du temps... Il a commencé à... C'est plus parti dans une conversation, quelque chose de plus plaisant et tout. Après, il y a des gros moments où... En fait, je dis ça, que c'est un personnage aussi. C'est qu'au bout d'un moment, on parle de western, on parle de plein de choses. Et on se met à parler d'Avatar. Et là, il nous dit « J'aime pas Avatar, on a rien... » Bon, on continue l'interview. Et au bout d'un moment, Jérôme repose une question directement dessus. Et il fait « De toute façon, je ne pourrais pas le dire, je ne l'ai pas vu. » Et on se dit voilà, quoi. Ça résume un peu le truc. Mais on est arrivé, en fait, jusqu'au bout de l'interview. C'était plus relâché. Tout le monde était bien avec lui. Et c'est vrai que pour moi, je pense que c'est un grand, grand souvenir. Ouais.
Toi, John, dans le cadre de Culture Privée, tu as rencontré des gens ou toi, tu étais uniquement en studio en train de faire des chroniques?
Je suis trop timide, je n'ai pas encore rencontré des gens. Dans le cadre de mon ancien boulot, on avait énormément de réalisateurs, de directeurs photo
au cinéma,
avec toujours des rencontres. Mais c'est ça qui est embêtant dans ce milieu-là, c'est quand on s'intéresse à tout ce genre-là. Il y avait Capra, je crois, qui avait dit que le cinéma est une maladie, et c'est vrai. C'est un truc où on ne fait que parler cinéma toute la journée. Et ça, je l'ai trouvé dans mon boulot d'avant. Je le trouve encore dans la radio. On a mangé ce midi avec Jérôme. On a fait encore que parler cinéma. Et c'est vrai que des fois, il y a des gens qui me disent, mais moi, des fois, j'ai envie de venir sur des événements que Jérôme fait ou quoi que ce soit. Je fais, mais attention, tu sais, c'est des endroits où on va parler que de cinéma. C'est
ouais,
que
si vous allez manger un barbecue, parce que traditionnellement, Culture Privée, il y a un barbecue par an. Bah, si vous emmenez votre compagne ou votre compagnon, ce sera du cinéma.
Mange bien.
Quand même, un petit peu de littérature aussi.
C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de littérature, il y a un peu de tout ça. Mais c'est vrai que ça se nourrit beaucoup de ça.
Enfin, et puis du cinéma, on parle pas de comment s'appelle des Avengers, et puis de comment s'appelle le truc avec les robots, là. Le film préféré.
Attention, Thomas aime bien Transformers. Attention. Peut-être, Pierrick, il a un souvenir. Peut-être qu'il a un souvenir de l'émission. Parce que
je sais
ça
pas
fait
si du coup Pierrick.
Longtemps qu'il nous a quittés, ouais. Mais on a fait beaucoup de rencontres avec Pierrick à Gérardmer.
Ah oui, c'est vrai que t'as été à Gérardmer, c'est vrai.
Oui, parce que du coup, ça me fait bizarre en fait de travailler sans casque. J'ai pas fait beaucoup d'interviews pour Culture Prohibée, finalement. J'ai pu rencontrer des gens dans mon autre vie, mon autre boulot. Mais oui, à Gérardmer, oui, il y a eu comme la masterclass de Dario Argento qui était un grand, grand moment.
Comment ça se passe un enregistrement de Culture Prohibée pour les auditeurs qui découvrent? Comment vous enregistrez toute la journée? Enfin, vous donnez rendez-vous, il y a un cheminement que vous envoyez par mail, ça se passe comment?
Bah oui, on fait comme tout le monde, on se fait un petit planning, qui est dispo quand, à quelle date le studio de la radio est dispo, puis on se retrouve, et puis on enregistre généralement une série d'émissions, parfois on fait des entretiens par téléphone, parfois on fait des entretiens sur le terrain, puis après... j'envoie ou Thomas, quand c'est des émissions sur lesquelles Thomas a la main, on envoie le plan à notre ami Léo qui t'appelle de sitôt matin.
C'est Tavernier.
Voilà.
Il a enfin vu.
Voilà. Et Léo qui nous fait la partie finale du montage et puis qui fait l'habillage sonore, voilà, avec beaucoup de qualité. Je voulais rajouter quand même une petite anecdote dans nos rencontres avec Coco, un moment quand même, je pense qu'on s'en rappellera toute notre vie aussi. C'est quand on était gamin, on aimait bien un acteur qui s'appelle Luc Méranda. Et c'était un ancien cascadeur de chez Rémi Julienne, alors qui est connu chez nous parce qu'il est français, qui est connu chez nous pour la série Château Vallon. Alors c'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais sinon qui a été le héros de plein de gros films et de gros films italiens. Il a cartonné, c'était une star en Italie et de quelques giallo et tout ça évidemment. Et puis un jour, on a l'occasion de la projection de Torso. D'ailleurs, Sergio Martino, c'était aussi une de nos plus belles rencontres parce qu'on a passé 2 jours avec lui. Et le soir, donc il y avait une projection du film sur Paris au cinéma Le Latina, et puis on discute avec eux, on passe la soirée donc avec Luc Méranda et puis Martino, puis il y avait plein de mecs qui voulaient leur faire signer des autographes machin. Alors, du coup on se casse parce que bon voilà, et puis on dépose Sergio Martino à son hôtel, et puis au moment où on allait arriver dans notre hôtel à Paris, il devait être quoi, 1h du mat, je sais pas quoi, 1h30, il y a Luc Méranda qui nous appelle, il appelle sur mon portable. Je dis merde, Luc Méranda, ça va être une erreur. Bon, je décroche quand même, je venais de choper son numéro pour une interview, tu sais. Et puis, qui nous fait « Oh les gars, j'ai besoin de vous. » Putain, une mission quoi, c'est carrément une mission. Le mec, c'était le flic number one du polar italien. Il flinguait tous les méchants, il nous confie une mission. « J'ai plus d'huile dans ma bagnole, les mecs. Vous auriez pas de l'huile des fois.
» Ah, c'est vrai, quand on pense en fait avec Jérôme... On est repensé sur la route et en revenant, et on se dit quand même, on cherchait. C'est le mec qui a fait cascade avec Rémi Julienne, quoi, et tout.
Et il a pas d'huile dans la bagnole, le mec, putain.
Et voilà.
On s'est retrouvé devant le rue de Rivoli, devant le McDo. à lui foutre de l'huile. Puis après, il nous a mis sur la main, sur l'épaule. Il a fait, les gars, je m'en souviendrai. Bon, c'est un ancien, ancien parent aussi. Hein. Il fait, les gars, je m'en souviendrai. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Résultat, on a fait une interview chez lui. Et puis, tu ne l'as pas lâché, hein, mon coco. Hein.
Ouais, voilà. Ouais, non, c'est vrai que ça fait partie. Et moi, au moment où je dépose Sergio Martino, je fais une vanne, en fait. Pas une vanne, même pas, mais genre... ouais, j'étais un petit peu en stress et tout, et il y avait un silence, on était un petit peu claqué et tout. Et puis, il regardait la bagnole et tout, et je lui dis, bah ouais, ouais. Je fais, c'est une Alfa, comme dans vos films. C'est italien, c'est fait, c'est fort, c'est rapide et tout. Et avec le recul, je me suis dit, c'est ringard.
C'est pour ça qu'en fait, il ne t'appelle plus jamais, quoi.
Ça y est, exactement, quand il ne veut plus voir.
Hey Sergio.
C'est quoi les prochaines actus pour Culture Prohibée? Est-ce qu'il y a déjà des noms de personnages qu'on va pouvoir retrouver? Est-ce qu'il y a déjà des films qui sont prévus? Je crois qu'on vous a contacté assez récemment pour donner votre avis pour les Césars ou les Oscars.
Bon, je crois que c'était une erreur, c'était la boîte qui m'a envoyé ça, mais ça m'a fait rire. Du coup, j'ai eu des liens pour voir plein de films, alors j'étais content. Voilà. Sinon, l'actu, c'est comme d'habitude, on fera des festivals, de la BD. On va parler un peu de la revue Ténèbres. Voilà, Thomas avait envie de défendre cette revue. Donc, il y aura des auteurs qui sont dans cette revue. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus. Il y aura aussi des interviews mythiques qu'on diffusera, des interviews qu'on a faites dans l'émission. Et puis, il y a des rencontres de prévues. On a prévu de rencontrer aussi le cinéaste Jean-Claude Missian dans les mois à venir, qui a fait Les Hordes pour la télé, une série post-apocalyptique démentielle, et puis qui a tourné des films comme Ronde de nuit, des films assez, des polars français vraiment bien. Voilà, on a prévu des choses comme ça, on va pas vous en dire beaucoup plus. On a des choses dans nos valises, on a toujours une interview de Chris Claremont qu'on n'a pas passé non plus, l'un des grands scénaristes des X-Men ou de Michael Moorcock, qui est un grand auteur de fantasy. On a des choses sous le coude. Là, je vous ai livré un peu des avant-premières. Ça viendra, ne vous inquiétez pas. On a Lustig aussi, qu'on n'a pas encore passé. Peut-être cette saison, si vous êtes gentil.
De toute façon, on retrouve tout sur le blog de l'émission.
Exactement. Culture-prohibée.blogspot.fr. Et puis, puisque c'est 2019, puisque c'est la nouvelle année, grande nouvelle, on est en train de basculer dans l'ère du modernisme parce que maintenant, on est un vrai podcast aussi maintenant sur le net. Vous pourrez nous podcaster, il y a un flux RSS et vous pouvez aussi nous écouter via iTunes. Ça s'appelle Culture Prohibée, le podcast.fr je crois. C'est sur PodCloud, voilà. Et petit à petit, on va mettre tout ça à jour, il y aura toutes les émissions et... voilà, allez-y, faites-vous plaisir, écoutez-nous en balado-diffusion, c'est presque aussi bien qu'à la radio.
Et Coco, pour toi, les prochaines sorties, du coup, Ecstasy of Film, c'est quand ça arrive quand? Parce qu'il y a du retard, c'est ça sur...
Ouais, sur Réanimateur, donc ceux qui vont écouter ça vont être heureux. Donc il y a un petit peu, il y aura quand même un petit mois de retard dessus, voilà, comme... tout se passe pas, le métier d'éditeur n'est pas un long fleuve tranquille. Donc du coup, il y aura un petit peu de retard. Donc il y aura Réanimateur 1 et 2, Rage de David Cronenberg, un documentaire sur l'Eurocrime. Et puis il y a d'autres, en fait, d'autres... Alors je bug parce que je peux pas les dire, j'ai failli les dire et je peux pas les dire.
C'est secret.
Donc
voilà. C'est en négociation.
Je suis en négociation et j'allais les balancer là. C'est pour ça que j'ai bugué là un petit peu. Ça a failli partir. Donc par contre oui, il y aura le livre avec Monsieur Jérôme qui est là et puis il y a plein d'autres choses. Pour moi, l'année dernière, après Culture Prohibée indirectement, on a fait aussi avec Thomas, grâce au contact qu'on crée comme ça, on a fait avec Thomas. Bon, je sais, je vais peut-être pas trop rester dessus parce que Jérôme va avoir une larmichette pour Paul Verhoeven qu'on a fait avec Thomas.
Je suis vénère, j'étais pas là quand ils sont allés voir Verhoeven, j'étais foudrage.
Donc c'est vrai que c'est des choses comme ça qui se passent et que maintenant d'autres éditeurs en fait anglais avec les contacts qu'on a. Et m'appelle et en me disant je dois sortir Black Book, je peux pas y aller, est-ce que tu peux pas aller faire l'interview de Verhoeven? Non, j'ai mieux à faire, je me regarde un Max Pécasse si tu veux. Là je lui ai dit oui direct. Donc on y est allé, il était en pleine pré-production en fait son prochain film avec Virginie Efira, donc c'est plutôt bien. Et puis je pense que Culture Prohibée fait que aussi, et puis Et puis la preuve, c'est que les festivals, un peu, et puis tout le monde nous rappelle, parce que au niveau des interviews, voilà, que ça soit Jérôme, Thomas, John, non, j'allais John dire, non, j'ai rebugué. J'ai rebugué, donc voilà, ouais, ça tient la route, et voilà, les personnes, même des fois, nous disent, voilà, quand on passe derrière d'autres, bah ouais, ça fait un petit peu plaisir de savoir que c'est des. Qu'on parle avec des passionnés, parce qu'on voit que les questions, c'est pas les trucs fourre-tout et voilà, les trucs bateaux. Donc, comme disait, on crée des liens et les personnes, je pense qu'ils apprécient ça aussi, qu'on se foute pas d'eux. Donc voilà, c'est plutôt cool.
Et on retrouve où les infos d'Extasio Film sur Internet, sur Facebook, ou est-ce qu'on te suit? On sait que tu as des petits problèmes avec les réseaux sociaux, tu dois aller trop sur les réseaux africains, toi aussi, je sais pas, parce que des fois tu te fais pirater tes comptes.
Ouais, exactement. Ouais, c'est pas la première fois que ça m'arrive, en fait, les Facebookiens, les Facebookiennes, je ne sais pas. En fait, vont sur un site comme Extasy of Film, en fait, mais en fait, sont un petit peu choqués quand ils voient un téton qui dépasse, ou une fesse, ou un plan gore et tout. Donc, je me fais souvent signaler sur
ta
Facebook.
Page. Et donc,
du coup, ça ferme la page. Je suis banni un petit peu.
Banni de Facebook.
Banni de Facebook. Oh là là, le rebelle. Ouh là là. Et non, bah, c'est un peu triste, quoi. Parce qu'après, du coup, ceux qui en pâtissent, c'est un petit peu tous ceux
la
qui.
La communauté, exactement.
Voilà, c'est la communauté. Et c'est un petit peu dommage. Voilà, ça m'est arrivé lors du PIF, une autre de mes interviews que j'avais bien aimé avec Christophe Gans aussi pour le PIF. C'est que je pars trois jours vendredi, samedi, dimanche pour Culture Prohibée, où il y avait Gans et puis d'autres, et je me retrouve, j'arrive le lundi, en fait je vois la page qui est bloquée, plus rien, et ouais, non, c'est un petit peu. Et puis il y a des fois aussi je fais de la pub en fait pour les collègues, donc là dans le cas qui était là, c'était pour mon graphiste Gengis Khan Artwork, Greg Lee, et je l'aide, je partage en fait son crowdfunding et bim, quoi, ça me tombe dessus. Donc bon, bah voilà, quoi, c'est la vie, je ne veux pas pleurer non plus, hein, c'est pas la fin.
Mais
du
pourquoi
monde.
C'est pas toujours simple. C'est pas toujours
simple. C'est pas que la vie.
C'est pas toujours simple.
Mais ouais, non, c'est pas toujours simple. Donc il y a la page Facebook, ou sinon, vous pouvez la retrouver sur la boutique. Là, je ne pourrais pas aller plus vite que Jérôme. www.theextasyoffilm.com et voilà, pour les précommandes, pour tout ça. Et puis, c'est souvent les amis de Culture Prohibée. Sont là pour parler de mes sorties. Je suis un petit peu pistonné, hein. Je vais l'avouer, je suis un petit peu pistonné.
Merci mais voilà. À vous d'être venu ce matin pour nous parler de cette émission, les 10 ans de l'émission Culture Prohibée. Si vous aussi vous n'avez pas tout compris, si le nom des acteurs ou des réalisateurs vous est un petit peu inconnu, je vous invite à aller voir sur le site internet de Culture Prohibée. Il y a plein d'émissions, il y a 10 ans d'émissions, donc au moins vous pourrez peut-être reprendre une culture un peu alternative. Et il y a toutes les émissions qui sont disponibles sur le Blogspot.
Ouais, je voulais rajouter un petit truc. Juste dire, bon, le bouquin c'est le Diallo, un joueur qui en savait trop, et juste dire aussi que pour les fans de l'émission, ça et tout, chaque premier mardi du mois à la salle Saint-Gobain de Tourotte, il y a un ciné-club dans lequel on projette des films qu'on aime bien, et là, dans les mois qui suivent, il y aura les 400 coups de Truffaut, et puis il y aura le mois suivant, au mois de mars, le Suspiria Dario Argento en version remasterisée, ça va claquer.
Merci à vous de nous avoir suivis ce matin pour la matinale, on se donne rendez-vous demain matin, bon après-midi, bon courage, et restez-nous fidèles.